questions? Oui.
Par rapport au magistère authentique et unique, est-ce que dans le califat qu'il y avait en Turquie, il n'y avait pas une espèce de magistère, comme on l'a dit avant, qui s'apparentait un peu à...
Ah, le calife.
Oui.
Le calife, oui.
À une espèce de
oui.
Côté.
Oui.
Et si, en fait, le fait que ce calife ait été destitué, ça n'avait pas été aussi une source pour le fondamentalisme, parce que justement, il y a diverses interprétations qui ont pu être faites, qui ont pu pousser plus loin jusqu'à un radicalisme. En fait.
Oui.
La deuxième question, c'est comment est-ce que les musulmans expliquent que Dieu change d'avis avec les versets abrogeants
Et abrogés, oui, d'accord. Alors, c'est vrai que le califat, l'institution du califat, c'était une sorte de garantie d'unité du monde musulman. C'est le calife qui donnait la norme, les orientations. Mais, malgré tout, il y a eu, depuis très longtemps, depuis le 8e et 9e siècle, dans le monde musulman, se sont développées des écoles juridiques, surtout dans le monde sunnite, donc avec une interprétation propre. Il y a 4 grandes écoles juridiques. Je pensais vous en parler demain, mais donc je ne les ai pas avec moi là. Mais si je retrouve, je vous donnerai leur nom. Je dois avoir ça dans ma chambre. Donc, en tout cas, il y a 4 écoles juridiques qui ont des lectures différentes du Coran. Ça complique encore les choses. Et ça nuit à l'unité doctrinale, si vous voulez. Ces écoles juridiques ne concernent jamais le dogme. C'est toujours pareil, ça ne concerne que la partie législative et les mœurs, les habitudes, manière de vivre. Alors il y a donc parmi ces 4 écoles juridiques, il y a la plus libérale et la plus rigoriste. Il y en a 4. Alors les écoles juridiques se répartissent l'espace musulman. Au Maghreb, on est sous l'influence de telle école juridique. En Indonésie, sous l'influence de telle autre école juridique. Ça change selon les espaces, vous voyez. Et donc tel pays se réfère à telle école juridique. Donc ça nuit déjà à l'unité, et c'était déjà le cas au temps du califat. Mais disons que aux yeux du monde, il y avait quand même un dirigeant qui pouvait parler. Alors c'est vrai que la disparition du califat, elle laisse le monde musulman désemparé, encore plus éclaté, bien entendu. Il n'y a plus seulement les écoles juridiques, mais il y a aussi les idéologies qui sont apparues. Les idéologies sont également des interprétations de l'islam. Pas des exégèses, mais des interprétations, des lectures. Et par exemple, une grande idéologie qui est en pleine prospérité aujourd'hui, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une confrérie fondée en Égypte par un instituteur en 1928. Hassan El Banna. Hassan Adza. Pardon. 2SAN, El Banna, BA2NA. En 1928, l'Égypte était dominée par les Britanniques, et en plus, il y avait une élite intellectuelle égyptienne qui voulait imiter le mode de fonctionnement de l'Europe. L'Europe, à l'époque, était présentée un visage très attrayant pour certains musulmans, notamment en Égypte, au Liban et en Syrie. Alors, il y avait des intellectuels donc musulmans qui ont publié des livres très modernes, très modernisants, disant qu'il fallait imiter le mode d'organisation de la société inspiré de l'Europe, avec même certaines tendances laïcisantes. Je vous en reparlerai de la laïcité. Mais en parallèle, le fondateur des Frères musulmans, Hassan El Banna, donc, a dit non, ça ne va pas du tout, nous allons perdre notre identité, d'où les Frères musulmans, qui, eux, voulaient revenir à la lecture traditionnelle du Coran et du mode de fonctionnement de la société islamique. Le tout islam. Il disait, l'islam est à la fois religion, société, État, inséparablement. Et alors, les frères musulmans ont connu un très grand succès à l'époque. Après, il y a eu un creux de la vague, si vous voulez. Et puis, ils ont beaucoup d'attrait à partir des guerres avec Israël, notamment en 1967, la défaite arabe contre Israël, la guerre de 6 jours. Alors à ce moment-là, tout ce qu'il y avait de courant modernisant dans le monde arabo-musulman, je dis bien arabo-musulman, eh bien, a commencé à changer. Ils se sont dit, finalement, c'est la modernité qui nous pousse à la défaite contre Israël. Alors, notre salut, ou notre succès, viendra du fait que nous nous réapproprions notre, notre identité en plénière, si vous voulez, donc avec le tout islam. Il y a des intellectuels musulmans qui ont écrit des choses très fortes là-dessus. Ils disent, d'un coup, après la défaite contre Israël, j'ai compris, disent-ils, que la solution, ce n'est pas dans l'imitation de modèles étrangers, mais dans la réappropriation de l'islam intégral. Alors, donc les frères musulmans sont une des idéologies qui sont apparues donc, au XIXe siècle, et puis il y en a eu d'autres. Il y a le wahhabisme aussi. Le wahhabisme, c'est l'idéologie officielle du royaume d'Arabie saoudite. Donc la lecture la plus rigoriste du Coran. Vous voyez, donc, d'un côté, il y a des écoles juridiques traditionnelles qui se sont réparties l'espace musulman, et à part, ou là-dessus, sont apparues ou se sont plaquées des idéologies qui imposent leur propre manière d'interpréter le Coran et la manière de vivre musulman. Alors, ça complique encore bien les choses, c'est vrai. Mais voilà, alors, puisqu'on a, vous m'avez interrogé sur les mouvements intégristes, ils sont issus de ces idéologies-là, je veux dire un mot de l'islamisme. Pendant des siècles, au fond, jusqu'au début du XXe siècle, dans les pays occidentaux, dans les pays non musulmans, on ne distinguait pas entre islam et islamisme. On parlait de l'islamisme, comme on parle du judaïsme ou du christianisme. On a fait la distinction depuis quelques décennies pour montrer que... parce qu'on veut dissocier les musulmans qui font une lecture rigoriste du Coran et les musulmans qui sont ouverts à une certaine modernité. Alors on distingue islam et islamisme. Et du coup, certains intellectuels chez nous disent que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Entre l'islam et l'islamisme, il y a une différence de degré et non pas de nature. Voyez, l'islamisme, il s'enracine dans l'islam. Ce n'est pas un phénomène étranger à l'islam. Il prend appui sur des versets coraniques qui permettent, par exemple, la violence, on parlera demain de la violence un peu plus, je vous donnerai des références, hein, mais c'est pour vous pour donner un exemple. Il faut voir que l'islamisme n'est pas un accident de l'histoire. Il s'enracine dans l'islam le plus authentique, si vous voulez, mais il faut faire attention, et ça, vraiment, j'y tiens beaucoup, de ne pas enfermer tous les musulmans dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme. Tous les musulmans ne font pas une lecture, disons, violente du Coran. J'ai cité quelques... Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure des nouveaux penseurs de l'islam qui veulent prendre leur distance par rapport à certains aspects inacceptables donc, du Coran. À partir de là, nous devons donc veiller à ne pas enfermer tous les musulmans dans un cadre figé, immuable, voyez. Nous devons toujours laisser la porte ouverte aux musulmans de choisir autre chose. Dès lorsqu'on accepte l'idée qu'il y a l'islam et l'islamisme, on doit faire cette démarche. Alors, j'ai fait une définition que je vous donne pour exprimer cette idée-là, enfin, ces idées-là. L'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Comprenez ? Ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. On ne peut pas réduire tout l'islam à l'islamisme, donc à la lecture idéologique. C'est ça, au fond, l'islamisme. C'est la lecture idéologique de l'islam qui privilégie les aspects idéologiques sur les aspects spirituels. Mais on ne peut pas réduire tout l'islam à l'islamisme, mais en même temps, on ne peut pas dire que l'islamisme est étranger à l'islam. C'est pourquoi l'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Vous voyez ?